Subversion, bricolage et spontané.
Esprit, contre-moral et révolte.
C'est X, le groupe X, c'est XN. On peut dire que c'est XN, qui est le mot qui va avec punk pour moi.
Pourquoi les jeans troués survivent-ils à la mode saison après saison? Comment la veste en cuir s'est-elle imposée dans nos vestiaires? Qu'est-ce qui nous plaît dans les looks patchwork, déstructurés? Quiet luxury, Y2K, punk, queer ou encore sportswear? Dans Catwalk Calling, designers, journalistes, chercheurs ou figures emblématiques du monde de la mode reviennent sur les défilés cultes de la Paris Fashion Week. Pour nous, ils décryptent les grandes tendances des podiums et ce qu'elles disent de notre société. Je suis Jeanne Balibar, bienvenue dans Catwalk Calling, un podcast proposé par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Le punk, tout de suite, c'est la musique. Les années 70, les Sex Pistols, les Ramones, les Stooges. C'est le bruit et la fureur des slogans forts comme No Future. C'est la provocation comme avec le mot punk, autrement dit bon à rien en anglais. Mais le punk, c'est aussi toute une esthétique vestimentaire très spécifique, entre déchirures et crêtes iroquoises, qui n'a de cesse d'inspirer la mode décennie après décennie. On dit de cette tendance qu'elle est spontanée, joyeuse ou encore subversive. Mais qu'est-ce qui constitue exactement la mode punk? Et de quelle manière continue-t-elle à vivre aujourd'hui, 50 ans après le début du mouvement? Dans cet épisode, Adrian Camarti, chercheur et enseignant en histoire de la mode, Victor Veinsanto, designer et fondateur de la maison éponyme, et Michèle Lamy, créatrice pluridisciplinaire, analyse pour nous les évolutions de la mode punk au fil des années.
Bah, le dernier show là, de Comme des garçons, bah, j'ai eu la chair de poule tout le long. Rika Okubo est l'incarnation même de quelqu'un de punk, mais punk dans son art, punk dans ce qu'elle défend. Rien que la marque, le nom Comme des garçons, ça a tellement de sens qu'une femme japonaise qui ne parle pas le français crée sa marque dans un nom français mais avec un féminisme dedans. Déjà rien que ça, je trouve ça génial.
Pour ouvrir cet épisode, on demande au designer Victor Veinsanto, de la marque éponyme, de nous raconter le défilé le plus punk auquel il est assisté. Il pense tout de suite au show de Comme des garçons, présenté à la Paris Fashion Week en décembre 2023.
Et là, de voir son dernier show, bah moi, c'était la première fois que je le vivais en live. C'est dingue, cette expérience, c'est une expérience humaine. C'est, tu vois, cette déformation de corps, cette déformation. C'est jouer, en fait, avec tout ce qui est tabou, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est l'une des très, 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 très rares fois où il y a eu en finale. Et donc, tous les mannequins sortent comme ça en même temps, un peu en boule, serrés les uns contre les autres, avec tous ces gros personnages, avec ces corps multicolores décuplés. Enfin, je crois que j'ai même versé une larme.
Well, she is a punk rocker.
Donc moi, j'ai aussi découvert les punks. Quand j'ai bougé aux États-Unis, c'était à la fin des années 70. Et donc, c'était la dégaine, les cheveux, la musique, et beaucoup de musique. Et justement, quand je suis arrivé à Los Angeles, où je suis installé, ça a été vraiment le début du mouvement avec la musique.
Michèle Lamy est une créatrice inclassable aux mille et une vies. Elle fait de la musique avec son groupe Lavascar, s'engage pour de nombreuses causes politiques et crée dans la mode et le design aux côtés de son compagnon Rick Owens. Elle nous raconte sa découverte des scènes musicales punk à son arrivée à Los Angeles dans les années 70.
C'était une tribu, les tribus qui se faisaient SDMC, avec des idoles. Mais en fait, les idoles, c'était vraiment les musiciens, ou alors je suis passée à côté, mais ils se retrouvaient dans les endroits downtown, LA, où il y avait l'American Hotel qui était... Moi, j'avais mes ateliers juste à côté. Et voilà, et très séduisant en même temps, mais très séduisant.
Attiré d'abord par la musique, Michel Lamy se passionne très vite pour l'ensemble du mouvement, y compris pour ses looks.
J'ai plein de souvenirs parce que j'ai l'impression que je le devenais aussi. Mais il y avait déjà les cheveux, les chaînes, les chaussures, c'était un style. Je ne sais même pas comment on dit en français, c'est comme ça, mais tout le monde les a vus, ces pics sur la tête. Les garçons surtout, mais aussi les filles, les couleurs dans les cheveux, les teintures roses, et puis les chaînes, et puis le cuir et les grosses chaussures. Bien sûr, on voit le noir, et on voit noir et blanc, et on voit seulement des couleurs dans les cheveux.
Souvent, on va associer les épingles, tout ce qui est le tartan aussi, les éléments qui vont être déchirés, mais volontairement déchirés. C'est un peu des petites connotations comme ça qui vont très vite apparaître parce qu'on a eu l'habitude de le voir, mais en réalité, ça va bien au-delà de ça.
En France, on a une iconographie où on voit des cordes, une sorte de cordes pendues, par exemple, l'épingle à nourrice qu'on connaît tous, lame de rasoir, parfois on a des échantillons médicaux, donc des tubes de laboratoire, on va avoir des chaînes de vélo.
Adrian Camarty, chercheur et enseignant en histoire de la mode.
Ensuite, on a souvent des matériaux artificiels. On a beaucoup du PVC, du plastique, on a des éléments kitsch, donc le léopard, par exemple. Le mohair rose, qu'on voit aussi beaucoup dans l'iconographie punk et des Sex Pistols, la teinture de cheveux. Et enfin, le dernier élément, c'est des éléments à connotation sexuelle et sadomasochiste. Donc des stilettos, des mini-jupes en cuir, parfois des sangles. Voilà. Donc on va évoquer aussi cet univers-là. Et c'est ça qui constitue en fait le vestiaire punk.
Capillairement, on peut s'exprimer, mais incroyablement. Enfin, moi, c'est plutôt même ça qui m'inspire. Moi, c'est du côté capillaire. J'en ai carrément un bouquin sur les cheveux de certains punks de Londres.
Pour Adrian Camarty, cette histoire de coupe de cheveux est loin d'être anecdotique. Elle s'inscrit dans une démarche esthétique beaucoup plus vaste.
On a aussi l'idée d'intervention personnelle. Il s'agit aussi pour le porteur d'interagir avec son vêtement, donc d'écrire dessus, de faire des éclaboussures, de le déchirer.
Souvent on dit punk à chien, et ben c'est ça, c'est le mec à la crête qui monte jusqu'à 20 cm, verte fluo, avec la copine à côté qui a moitié du crâne rose, l'autre violet, qui a un mulet énorme, des pattes, juste les pattes, alors que le crâne il est rasé, enfin c'est des petits trucs comme ça. Après ça peut être vraiment n'importe quoi et c'est ça qui est assez cool, c'est que c'est complètement libre et moi je me retrouve là-dedans. C'est vrai que j'ai toujours amusé beaucoup capillairement avec mes cheveux à faire plein de couleurs, plein de motifs. C'est grandement inspiré justement de la plupart des coupes punk.
Les cheveux sont un moyen simple et direct pour les punks de provoquer. On retrouve cette caractéristique dans la manière dont Adrian Camarty décrit une pièce emblématique issue des boutiques des créateurs londoniens Westwood et McLaren. Ils sont souvent considérés comme les inventeurs de la mode punk.
Au départ, la pièce que je retiendrai, c'est effectivement un débardeur où on a l'utilisation d'une iconographie homosexuelle directement et on voit deux cow-boys quasiment nus qui se confrontent. Et donc là, ça montre comment, pour parler donc, plus précisément de la mode punk telle qu'elle est formulée par Westwood et McLaren, cette boutique Sex à l'époque veut créer en fait des pièces pour provoquer une réaction de la part des gens qu'on croise dans la rue. Il convient de rappeler aussi que ça va se baser beaucoup au départ sur un détournement de vêtements fétichistes aussi, ou sadomasochistes, beaucoup. Je pense que le détournement, c'est fondamental dans le punk.
Le détournement irrigue la mode punk de Westwood et McLaren. Tout comme les créations de Victor Veinsanto, dont le travail est souvent qualifié par la presse de « punk ». Même si le créateur ne revendique pas cette étiquette.
Moi, justement, je ne me considère absolument pas punk, mais inconsciemment, si tout le monde me le dit, c'est que je dois en avoir un petit côté. Je pense que moi, c'est plus dans mon attitude de sale gosse. Voilà, sale gosse drôle. Voilà.
Dans sa collection intitulée « Hopla Guys », selon l'expression alsacienne qu'on pourrait traduire par « allez hop », Victor Veinsanto détourne les clichés de sa région d'origine.
Ma collection SS22, Hopla Guys, c'est donc une collection inspirée de mon Alsace natale. Donc moi, je me suis dit, on prend les choses qui sont très premier degré, le kouglop, les nœuds alsaciens, le kelch, et on détourne tout un peu à ma sauce. Donc les nœuds sont devenus énormes ici, mais il y a un look en l'occurrence où c'est vraiment une énorme coiffe alsacienne, et c'est plein d'accumulations de coiffes alsaciennes, toutes transparentes, et en dessous, en fait, elle est toute nue. Donc c'est sa coiffe qui devient une robe, et elle est vraiment énorme, elle fait, je crois, presque 3 mètres de haut. C'est vraiment gigantesque. Et ben là, on s'est vraiment amusé à détourner le code du traditionnel. Moi, j'adore le folklore, j'adore m'en inspirer, j'adore jouer avec. On pense souvent à la coiffe alsacienne assez déjà massive, et ben là, je voulais qu'elle devienne encore plus massive et qu'elle en devienne même une tenue intégrale. On a fait un sac énorme en forme de kouglof et la mannequin, pendant le défilé, elle l'a sorti, un vrai kouglof du sac, elle l'a dévoré devant tout le monde. Et du coup, je détourne le vêtement et je détourne le sens premier de la chose, mais parce que ça me fait rire.
Le détournement est pour Victor Veinsanto un moyen de s'amuser avec la mode. Mais est-ce que ce procédé essentiel à la culture punk est si anodin ?
McLaren et Jamie Redd, l'un de ses collaborateurs, sont des fervents lecteurs de Guy Debord et donc d'un mouvement artistique de l'après-guerre, fin 50, début 60, qui s'appelle l'International Situationniste et qui a théorisé beaucoup le détournement et qui a beaucoup procédé par détournement. C'est-à-dire que la manière de critiquer la société marchande, c'était de la détourner. Et Debord est quelqu'un, par exemple, qui écrit beaucoup en détournant ou en empruntant des phrases à d'autres sans revendiquer la paternité de la phrase. Et le punk va appliquer ça dans le vêtement.
Détourner pour remettre en question la société. On touche ici à ce qui constitue pour Michel Lamy le fondement du courant punk.
C'était la révolte de la famille, du système américain. Et oui, c'était pour moi une autre façon de mes 68, quelque part, qui était beaucoup moins intellectuelle, mais qui était beaucoup plus, disons, vraie au premier degré, on va vivre autrement. Et c'était une révolte. Et moi, j'étais un peu partie de France à cause du sombrage après mai 68, auquel j'avais beaucoup cru. Et que j'ai l'impression de retrouver là-bas d'une autre façon.
Ce qui est intéressant dans le punk, c'est que c'est un positionnement politique qui est fondé sur la négation de tout. Donc en fait, c'est un positionnement politique, j'ai l'impression, qui était fondé sur un vide total politique.
Mouvement d'opposition à une société, mais sans proposition politique concrète, il est difficile de cerner la racine idéologique du punk. C'est peut-être pour cela qu'on peut considérer le punk avant tout comme un état d'esprit.
Pour moi, le punk, c'est un esprit. C'est pas forcément un style, c'est pas forcément que du vestimentaire ou de l'esthétisme. C'est vraiment plutôt un mood, une attitude, une révolte. quelqu'un de punk, c'est dans la tête que ça se passe. Une Inès de la Fressange, elle est punk, alors que je sais qu'elle a jamais eu une tête de punk à chien. Pourtant, quand elle arrive avec ses cheveux courts à l'époque où c'est pas du tout la mode, ouais, c'était quand même une... Je pense que finalement, moi, j'assimile souvent le mot punk à des minorités, et donc souvent à des femmes, ou à des personnes qui ont justement plus de mal à se faire entendre. Et donc là, on est forcément punk, même une Simone Veil l'est.
Ce mood punk, on le retrouve aussi dans la façon dont Michel Lamy parle des Fécalmateurs, un duo de créateurs pluridisciplinaires ayant défilé lors du show de Rick Owens à la Paris Fashion Week de janvier 2024.
Il y a quelques punks, et on en a justement, qui étaient dans le show de Rick, qui sont en même temps très inclus dans ce qu'ils veulent faire au milieu de leur société, mais qui ne changeront pas leur façon d'être et leur façon. Il y a une création, mais c'est aussi la façon d'être et la façon de le porter. Donc, si vous voulez, pour moi, il y avait la caricature un peu de punk jeune commençant, et puis ensuite, il y a toujours eu des créations qui se sont développées d'une façon, je dirais pas plus sophistiquée, mais plus personnelle, et qui continue avec... en séduisant le système, disons, au lieu de s'y mettre.
Séduire le système tout en restant en marge. Ne serait-ce pas complètement contradictoire à l'esprit du punk? Et pourtant, selon Adrienne Camarty, l'histoire du punk dans la mode est aussi une histoire de stratégie commerciale. Regardons de plus près le parcours de Westwood et McLaren.
À la base, eux ont une boutique au 430 Kings Road, une boutique qui s'appelle Sex, mais c'est pas leur première boutique. Et donc c'est important de souligner que ces deux personnes-là vont avoir plusieurs boutiques, et à chaque boutique, ils vont essayer de lancer une sorte de style. Donc ça va commencer par l'Elite Rock, par exemple, où là ça va être plutôt le revival Teddy Boy. Ensuite, on va avoir Too Fast to Live, Too Young to Die, donc là en 72. Ensuite, on va avoir Sex en 74. Et ensuite, on aura Seditionaries. Et que, voilà, ce qu'on va appeler punk, ça va être ce qui va se passer entre Sex et Seditionaries. Il s'agit quand même de dire qu'effectivement, le punk peut être perçu comme un mouvement spontané, une mode spontanée, et que certains vont percevoir comme ouvrière, mais c'est aussi le résultat d'une sorte de stratégie commerciale quand même, de la part de Westwood et de la part de McLaren, qui essaie plusieurs styles jusqu'à temps qu'un prenne, et il se trouve que c'est celui-ci qui a pris.
Est-ce que la mode, pour vous, ça n'est pas contrecarrer les mouvements de mode ?
Je ne suis jamais à la mode, je suis avant-garde. La tendance est une tyrannie de rédactrice de mode qui est nulle.
Pour Adrienne Camarty, la stratégie marketing punk, qui repose sur l'effet qu'elle produit sur nous, perdure encore aujourd'hui.
On a même un héritage marketing, c'est-à-dire provoquer le choc, et faire parler de soi par le choc et par des stratégies de provocation. Et ces dernières années, le designer qui s'est plus rapproché effectivement d'une stratégie punk, sans en emprunter les formes d'ailleurs, et c'est Demnach Vazalia qui a participé à créer Vêtements à l'époque et qui ensuite a été nommé chez Balenciaga. D'abord, en fait, il y a des gestes purement entre guillemets punk chez Demnach Vazalia dans l'idée de détournement, et de prendre un objet banal ou un vêtement quotidien qu'on retrouve partout et de le détourner, de le mettre dans un défilé et de changer le sens du coup du vêtement. Voilà, l'exemple le plus fameux au début, c'est le t-shirt DHL, mais il a fait sur plein de choses, sur tous les produits reliés à l'industrie du tourisme à Paris, donc le détournement du sac Ikea qui est devenu un sac Balenciaga, ou dernièrement du sac poubelle qui est devenu un sac Balenciaga. Et on peut se demander si ça aussi c'est pas un geste qui hérite des stratégies marketing de McLaren et de Westwood au début.
Pour Adrienne Camarty, si la stratégie punk est toujours à l'ordre du jour dans le marketing, ce n'est pas le cas de la mode punk, qui serait passée de date.
Je pense que qu'aujourd'hui, il est franchement compliqué de parler d'une mode punk, parce que, par définition, la mode punk, c'est une mode qui, historiquement, est située, et aujourd'hui persiste certains punks, qu'on peut parfois croiser dans la rue. Mais à mon avis, la mode punk, effectivement, est morte, au sens où on sait très bien la reconnaître. Le geste, aujourd'hui, d'inclure des éléments BDSM dans un défilé n'est pas le même qu'au milieu des années 70, donc on prend pas le même risque. Et pour ça, il est quand même compliqué d'être qualifié de punk.
Dans sa collection Spring-Summer 2023, intitulée Common Love, Victor Vincento a justement fait défiler la créatrice Michaela Stark dans un look inspiré des imaginaires BDSM.
Michaela, elle prône la nudité, elle prône son corps, jouer avec ses bourrelets, jouer avec ce qu'on a comme arme, notre corps en fait. Moi, elle m'inspire énormément. Et donc elle, je la voyais nue. Je voulais juste que ce soit ses cheveux qui la recouvrent. Et en fait, elle se ligote toujours avec des cordes, etc. Son corps, et je voulais que ce soit ses propres cheveux. Donc là, en l'occurrence, c'est des faux cheveux, bien sûr. Mais qui la ligote tout le corps. Et donc, elle est quasiment toute nue. Elle a juste des cordes. Et ça, je pense que c'est, sans le vouloir, un peu le look le plus punk. Parce qu'il dénonce quelque chose. Il dénonce justement une morale et aussi... Et ce qui se passe sur les runways, on parle des corps, on parle de la diversité. Donc moi, ça m'a parlé de faire ça. On ne peut pas considérer que c'est le plus beau look, au contraire. Ce n'est pas de la haute couture, il n'y a pas de broderie ni rien. Mais moralement, en tout cas, il était fort à mes yeux. Et on est même passé dans le Daily Mail en se disant « risky business ».
Si le look de Michaela Stark dénonce les diktats imposés au corps féminin, il n'a pas pour autant provoqué un vrai scandale. Car ce qui était choquant il y a 50 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. De quoi interroger Adrienne Camarty sur ce qu'on conserve réellement du punk dans la mode actuelle.
On peut parler d'un double héritage, au moins dans le vêtement, un héritage littéral et un héritage métaphorique. C'est-à-dire que souvent dans les Fashion Week, on peut distinguer des éléments punk. Alessandro Michele chez Gucci, par exemple, a fait des éléments punk ou a utilisé le drapeau britannique comme un élément punk. Donc ça, c'est un héritage très, très littéral qu'on voit partout. Et après, on a un héritage plus métaphorique, à mon avis, ou plus conceptuel. Et là, je pense qu'il faut s'intéresser effectivement à un mouvement qu'on appelle anti-fashion dans la mode, qui est né au début des années 80, avec des designers comme Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo de Comme des Garçons.
Rei Kawakubo, ce nom est décidément sur toutes les lèvres de nos invités.
Ah, mais Rei Kawakubo, bon, la plus grande artiste de notre temps. Alors ça, c'est pas un... C'est une artiste qui exprime... en dehors des conventions, tout en faisant partie du monde de la création. Je veux dire, c'était une révolution pour la France quand les Japonais sont arrivés. Et elle, qui continue dans cette voie et qui fait des choses. Vous savez que j'ai une des plus grandes collections des pièces de chaude comme des garçons. Il y a un livre qui va sortir... bientôt, qui a été écrit par Angelo Flaccamento. C'est sur la mode et la mémoire. Et qu'il a voulu faire avec moi, avec mes collections de Comme des Garçons. Et il y avait une femme qui devait faire les photos. Puis c'était compliqué. Il me proposait d'autres choses. J'ai dit, mais non, c'est Rick qui doit faire les photos.
Rick Owens, bien sûr.
Elle avait des espèces de membres qui me sortent de partout. Enfin bon. Ça, c'est réellement punk.
Ces designers vont être importants parce qu'ils vont participer en fait à introduire de nouvelles propriétés dans la mode, dans le vêtement de mode, et des propriétés comme la déchirure, l'usure notamment, et le caractère vieilli du vêtement. Alors, je ne sais pas s'ils héritent du punk de façon directe, mais en tout cas, historiquement, ils arrivent au moment punk, et juste après la première vague de punk. Et c'est pour ça, à mon avis, que le punk va être important dans la mode, parce qu'il va participer, disons, indirectement, à lancer en fait ce mouvement anti-fashion qui va redéfinir totalement notre vêtement contemporain.
Le punk, malgré son caractère historique éphémère, a donc lancé une mode avant de devenir une tendance. Au passage, il a introduit de nouvelles normes dans le vêtement qui, elles, sont faites pour rester. Mais l'héritage de la mode punk, c'est peut-être aussi l'espoir d'un autre monde. Car pour Michel Lamy, le punk a avant tout été l'ouverture d'un immense champ des possibles.
Je suis d'un optimisme qui est exhausting. Chaque fois, on pensait que les choses se renouvelaient. Ouais, je pense qu'une des grandes raisons d'aller aux États-Unis, c'était la langue et la musique, quelque part en dehors de tout ce qui était aussi très séduisant. Et l'impression que le monde est très grand. C'était surtout une question ressentie, de voir ce qui s'est passé. Et c'est pas d'espoir de voir tous ces jeunes qui pouvaient avoir l'air de traîner dans les rues ou qui ne voulaient pas s'inscrire dans la société, suivre un courant dire normal. Mais en même temps, pour moi, c'était beaucoup d'espoir.
C'était Catwalk Calling, épisode 3, Punk. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, produit par l'Acmé Productions, préparé, tourné et écrit par Lola Berthet, réalisé et mis en musique par Thomas Rosès, avec la voix de Jeanne Balibar.